Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, et les versets 12 à 27. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 27. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Mais plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors bien sûr, ces derniers temps, nous avons plongé nos regards dans ce que la Bible enseigne au sujet de l'Église, et nous avons regardé à l'Église par rapport aux membres de l'Église, ce qu'était un membre d'Église, de voir que les Écritures nous enseignent que, eh bien, les chrétiens sont appelés à faire partie d'une Église. Et aujourd'hui, nous allons continuer, eh bien, de plonger nos regards dans la parole de Dieu au sujet du membre d'Église. Quelle est sa responsabilité? Quel est son rôle au sein de l'Église? Mais j'ajouterai aussi privilèges, hein, les responsabilités et les privilèges du membre de l'Église locale. Alors, je l'ai déjà dit. C'est évident que nous vivons à une époque et dans un monde où la plupart des gens, beaucoup de gens, cherchent davantage à recevoir qu'à donner, n'est-ce pas? On voit constamment des gens, bah, prenons juste l'exemple du monde du travail. Vous demandez aux gens, est-ce que vous gagnez assez? Ils vont toujours vous dire non. Est-ce que vous travaillez trop? Eux, ils vont vous dire oui, mais le patron, il va dire non, pas assez. Okay. Et on est dans ce genre de logique où, voilà, on veut recevoir, mais on n'est pas prêt à donner, n'est-ce pas? Naturellement, quand on parle de responsabilité, ça nous inquiète déjà. Quand quelqu'un vient nous demander, écoute, j'ai quelque chose à te demander, ou j'ai quelque chose à te confier, déjà, on est, ouh là là, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Parce qu'on a peur des responsabilités, on a peur d'avoir quelque chose à faire, n'est-ce pas? Mais les responsabilités du croyant au sein de l'église locale, elles sont réelles, elles sont multiples. Et dès qu'on parle de responsabilité, oui, effectivement, notre ancienne nature a tendance à nous provoquer, là, nous titiller en nous, de provoquer une sorte de réaction frileuse par rapport à cela. Mais nous devrions avoir un regard tout à fait différent par rapport aux responsabilités. C'est pour ça que je parle de responsabilité, de privilège, parce que quand on considère les responsabilités que Dieu nous confie au sein d'une église, c'est un privilège. C'est un privilège, tout d'abord, de pouvoir servir le Seigneur à travers le service, ben, des uns pour les autres. Ça doit être un privilège pour nous de pouvoir donner quelque chose en retour par rapport à ce que Dieu a accompli pour nous, par rapport à la grâce qu'il a accordée à ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que je vous invite Chacun, si ce n'est pas le cas, a adopté cette perspective de la chose. Lorsque nous regardons donc aux responsabilités du chrétien, du membre d'Église, eh bien nous voyons eh bien, les moyens par lesquels eh bien, nous pouvons manifester notre amour au Seigneur, nous pouvons manifester notre reconnaissance au Seigneur. Si on prenait justement le temps aussi de ne serait-ce que d'étudier l'histoire de l'Église, c'est chose très intéressante. Hein. Je ne parle pas simplement de l'histoire de l'Église, du premier siècle, je parle de l'histoire de l'Église à travers les siècles. On serait amené à juste nous remettre en question, voire même à nous humilier devant le Seigneur, ne serait-ce que en voyant, eh bien, les sacrifices que de nombreux chrétiens et chrétiennes ont donné, ont apporté, pour que, ne serait-ce que même aujourd'hui en France, nous puissions non seulement avoir une traduction hein, de la Bible, mais nous avons plusieurs traductions de la Bible qui existent en français. Et il y a des personnes à travers l'histoire qui ont donné leur vie, des gens qui se sont sacrifiés, qui se sont donnés, ne serait-ce que pour que nous puissions avoir la parole de Dieu dans notre propre langue. Et si nous prenions même le temps de nous informer par rapport à ce que subissent d'autres chrétiens à travers le monde, même aujourd'hui, à cause de leur foi, qui sont en danger à chaque fois qu'ils se réunissent au nom du Seigneur Jésus. Nous serions et nous devrions être amenés à nous humilier devant Dieu. C'est quelque chose qui est tragique lorsque nous voyons dans nos pays où nous avons toutes ces grandes libertés et privilèges de voir combien l'Église peut être négligée alors que dans d'autres pays nous avons des frères et des sœurs qui sacrifient tout pour pouvoir se réunir, qui risquent leur vie, qui risquent leur carrière, qui risquent le fait d'être ostracisés par leur famille, ne serait-ce que parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Alors ce matin, nous devrions donc nous demander, voilà, quelles sont les responsabilités par rapport à l'Église, mais aussi de les voir comme des privilèges que nous avons. Et ce matin, je vais commencer à en énumérer certains, parce que ça va prendre un peu plus de temps, n'est-ce pas? Mais voilà, énumérer plusieurs de ces responsabilités, privilèges du chrétien, du membre de l'Église locale, et de nous encourager à poursuivre ces choses. La première chose, qui pour ma part paraît assez évidente, parce que dans notre passage, par exemple, d'1 Corinthiens 12, il est question de l'Église comme un corps. On ne parle pas d'un corps lorsque on a un bras qui est là-bas, une jambe qui est là-bas, ou la tête qui est plusieurs mètres plus loin, n'est-ce pas? C'est l'horreur, n'est-ce pas, de voir un corps dans cet état-là. Dieu compare l'Église à un corps. Et un corps, c'est quelque chose qui est vivant, comme nous l'avons vu. L'Église, elle est vivante. Mais un corps est un corps que lorsque il est uni, lorsque ses membres sont là et attachés, liés les uns aux autres. N'est-ce pas? Et je crois que le premier point, et je veux dire, j'énumère cela non pas comme un reproche, je suis même ravi de ce que dans notre Église, nous ayons plusieurs chrétiens qui sont sérieux par rapport à cela, mais la première chose, c'est de participer aux réunions. Hein, de participer de manière fidèle aux réunions. Ça peut surprendre, parce que on devrait dire, oh, la priorité de l'Église, des chrétiens, ça doit être de louer Dieu, d'adorer Dieu, d'apporter un culte à Dieu. Et je dirais, oui, en toute logique, c'est cela. Mais nous sommes appelés à louer Dieu, à apporter un culte à Dieu ensemble. Et quand ce corps n'est pas uni, quand ce corps n'est pas complet, comment est-ce qu'on peut accomplir les autres responsabilités et voir ces responsabilités même comme des privilèges dans notre vie si nous négligeons même la place de l'Église dans notre vie en tant que croyant. Bien sûr, Philippe et moi-même, on ne s'attend pas à ce que les membres d'Église ne manquent jamais un dimanche. On sait ce que c'est, hein, la vie. On connaît les difficultés de la vie. Hein, on sait que, excusez-moi, on sait que souvent il y a des difficultés, il y a des obstacles, et on ne peut pas toujours être là. Mais il y a une différence entre la personne qui fait tout pour que, voilà, être à l'église avec les autres pour louer le Seigneur, ça doit être ma priorité. Et parfois, oui, il va y avoir des situations où ça ne va pas être possible. Mais d'autres chrétiens, ils ont une autre perspective. Ils ne voient pas ce moment comme une priorité pour eux. Hein, de nombreuses familles, notre frère Philippe peut aussi témoigner de cela, de chrétiens qui, voilà, ils veulent faire ce qui est bon, ce qui est juste, et éduquer même leurs enfants dans le Seigneur. Mais ils ont laissé d'autres choses prendre la priorité sur la vie chrétienne et sur la vie d'église. Hein, que ce soit par bon, les activités sportives, ou parfois on se dit, ah, on s'est couché trop tard samedi soir et on n'a pas réussi à se lever pour le dimanche matin, etc. Vous savez, bon, moi, vous le savez, hein, mes parents étaient dans le ministère, et donc oui, pour nous, l'église, ça a toujours été le dimanche, c'est la priorité, c'est pour le Seigneur, c'est pour l'église. Et en cela, hein, mes parents s'assuraient que, bien le samedi soir, eh bien, on se couchait à des heures raisonnables pour que le lendemain, on n'ait pas trop de difficultés non plus à se réveiller, hein, et mettre tout le monde en retard parce qu'on se lève trop tard, et puis après, oh, il y a quelqu'un qui est déjà dans la douche, et puis il faut attendre. Et puis, vous voyez comment on accumule ces choses, et finalement, on est en retard. Et parfois, certains se disent, bon, on est tellement en retard que ça vaut pas la peine. Hein, ils ont honte d'arriver en retard. Mais je veux dire une chose, n'ayez jamais honte d'arriver en retard, ok? Je préfère que vous arriviez en retard que vous ne veniez pas du tout. Mais vous comprenez que, voilà, il y a dans notre vie des résolutions à prendre, des décisions à prendre par rapport à la vie de l'Église et par rapport à la place que l'on donne à l'Église. Est-ce qu'on doit rappeler que, voilà, l'Église, Dieu en parle comme étant la fiancée du Seigneur? C'est quelque chose qui est magnifique, qui est noble, qui est honorable. Et qu'en tant que chrétien, on devrait tous se précipiter pour, voilà, avoir notre place en cela. En regardant à l'Église du Nouveau Testament, nous découvrons ce lien solide entre les croyants, mais aussi ce désir profond de s'assembler pour louer Dieu, pour s'encourager, pour s'instruire, pour servir dans l'Église. Et ça, c'est le modèle que nous voulons suivre, que nous désirons suivre. Si on regarde au tout début, dans le livre des Actes, au chapitre 2, hein, lorsqu'on a cette Église de Jérusalem qui est naissante, hein, nous voyons au chapitre 2 du livre des Actes, versets 46 à 47, que les croyants, les chrétiens, et notez bien, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Chaque jour. Et nous, chrétiens modernes, on se dit, oh là là, deux réunions dans la semaine. Deux réunions. Chaque jour, assidus au temple. Je me rappelle aussi de témoignages de chrétiens qui, une fois que le bloc soviétique, hein, s'est effondré dans les pays de l'Est et que l'Évangile a pu pénétrer de manière plus profonde, parce qu'il y avait déjà un témoignage, il y avait déjà des chrétiens qui risquaient leur vie pour amener des Bibles dans ces pays et de témoigner de Jésus-Christ. Mais une fois que ce bloc s'est effondré et que des églises ont commencé à naître ici et là, il y avait des témoignages de la part de missionnaires qui nous disaient, on a des personnes qui font 2 heures de marche pour venir. 2 heures. Quand mon père, une fois, avait été invité à prêcher dans des églises en Hongrie, et mon papa, bon, la dernière fois, bon, ça a été, hein, il est resté dans les temps, hein, qu'on attribue généralement pour les prédications, hein, généralement 45 minutes, c'est ce qu'on se dit, ça c'est une bonne prédication. Mon papa, Et j'ai dû hériter de lui un petit peu aussi. mon papa, souvent, hein, il dépassait allègrement, hein, les 45 minutes. Mais quand il est allé en Hongrie, qu'il a prêché ses prédications, hein, d'une longueur habituelle, le pasteur lui dit, c'est tout? Est-ce que tu as autre chose? Et il a dû continuer. Il a dû prêcher un deuxième message. Hein, c'est pour ça que bon, nous, on doit toujours être prêts. Hein, moi, je suis reconnaissant de ce que voilà. Moi, j'ai mes messages qui sont sur mon Dropbox là, et puis je peux les ressortir au cas où. Hein, mais voilà, cette soif et ce désir de la parole de Dieu, cette soif et ce désir d'être ensemble pour louer le Seigneur. Est-ce que ça nous dérangerait, nous, tellement que chaque jour nous ayons des réunions? On se dirait, oh, on a déjà tellement d'activités. Hein, et c'est vrai, on vit en une époque où on est rempli d'activités, hein, avec les familles. Hein, bon, il y a le sport, il y a la musique, il y a l'école, etc. Ah, et puis mince, maintenant, il faut l'emmener chez le docteur. Et on a les activités de la semaine qui sont remplies et qui se cumulent si bien qu'on a presque l'impression d'étouffer. Alors, c'est sûr que si on disait, ben, tiens, on va faire une réunion le vendredi soir. Oh. Mais notez bien, ces premiers chrétiens, chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Oh, nous avons déjà vu en long et en large que l'Église est ce corps dont l'unité et la cohésion sont essentielles à son fonctionnement. Et de nos jours, c'est vrai que on a à notre disposition tellement d'outils, hein, ne serait-ce que pour Philippe et moi-même, dans la préparation des messages, hein, les ouvrages, les commentaires bibliques, etc., ou même, hein, les logiciels que l'on a sur l'ordinateur, qui sont des grandes aides pour réunir, hein, les informations, rechercher les choses, etc., pour la préparation des messages. Mais même pour chaque chrétien, on a tellement, tellement, tellement de choses à notre disposition. Et on vit à une époque où on a de plus en plus, hein, cette présence technologique, hein, dans les églises. Et je ne dis pas que tout est bon, ni que tout est mauvais là-dedans. D'accord? Moi, je prends toujours les choses, bon, je regarde l'ensemble et on analyse cela, et puis après, on voit par rapport à cela. Mais je sais que même déjà, avant qu'il y ait ces moyens technologiques, il y avait déjà des chrétiens, et je ne dis pas ici dans notre église, hein, je parle dans d'autres endroits, dans notre lieu, des chrétiens qui ne voyaient pas la nécessité d'être à l'église. Ou des chrétiens qui disaient, oh, de toute façon, l'église, hein, c'est rempli de personnes hypocrites. C'est probablement vrai dans certains cas. Hein. Mais voyez, le problème, c'est que au lieu de regarder à l'Église comme étant le corps de Christ, on a regardé à l'imperfection des personnes. Et d'avoir cette attitude de dédain et de négligence vis-à-vis de l'Église est terrible. Et donc aujourd'hui même, certains, hein, vont se contenter même de se connecter en ligne, hein, d'écouter un pasteur ici, un autre là-bas, et de voir, ah oui, j'ai participé au culte, hein, à Calgary, au Canada. C'est intéressant, c'est bien. Mais j'ai probablement déjà comparé la chose ainsi, hein, dans une prédication, mais même là, se contenter d'une version virtuelle de l'Église, hein, c'est comme se contenter de regarder la vidéo d'un feu de cheminée. Alors moi, je me rappelle à l'époque, hein, où sur les ordinateurs, il y avait ces fameux écrans de veille, etc., et puis on pouvait en choisir différents. Et puis il y en avait certains, voilà, c'était un feu de cheminée. On pouvait mettre ça, on mettait ça à l'époque peut-être de Noël, ça donne une petite ambiance, atmosphère. Hein, on aime bien cette idée d'avoir une cheminée. Mais se contenter de regarder la vidéo d'une cheminée et de s'attendre à ce que ça nous réchauffe, C'est la même disposition que certains chrétiens ont à regarder un culte en ligne et à s'attendre à ce que ça agisse dans leur cœur. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a rien à en tirer. Parce que lorsque la parole de Dieu, elle est prêchée et prêchée avec fidélité, oui, on peut bénéficier grandement de cette prédication-là. Mais l'Église, le culte, ne se limite pas au simple fait de recevoir la parole de Dieu, de recevoir l'exhortation ou l'encouragement par les témoignages. Ça en fait partie. Mais il y a aussi cet aspect de ma présence, ma participation à cela. Parce qu'une église, et c'est pour ça qu'on encourage le dimanche matin chacun à apporter un mot de témoignage, d'encouragement, d'exhortation, parce que c'est ce que nous sommes supposés faire en tant qu'église, de ne pas juste recevoir, mais de pouvoir donner, de pouvoir participer ainsi à l'église. Et donc pour que même les différents ministères au sein de l'Église locale puissent être bénéfiques aux croyants, eh bien, il faut que nous participions, il faut que nous nous investissions dans l'Église et que nous prenions à cœur les responsabilités et les privilèges que le Seigneur nous accorde. Mais là encore, comment est-ce que cela pourrait être possible si nous ne sommes pas assidus? Hein, peut-être vous n'avez pas noté ce mot-là dans le passage de Actes chapitre 2. Non seulement ils étaient chaque jour ensemble au temple, mais il y a ce mot-là, assidu. Assidu, c'est-à-dire que c'était quelque chose de très régulier. D'accord? Ils ne cherchaient pas à manquer l'opportunité de pouvoir se réunir avec les frères et sœurs en Christ. Et donc si les chrétiens, si les membres d'église ne se rassemblent pas, comme j'ai dit, il n'y a pas d'église. Il ne peut pas y avoir de corps uni et complet. En d'autres termes, se rassembler au nom du Seigneur Jésus, eh bien, ça fait partie de ce qu'est une église. Vous vous rappelez d'où vient le mot église? Hein? C'est le mot grec ecclésia. Et ecclésia, ça veut dire assemblée. C'est la nature même d'une église d'avoir cet assemblement de croyants réunis pour glorifier Dieu, pour se mettre au service des autres et bénéficier aussi de ce service. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous engage précisément à ne pas abandonner notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Alors comme j'ai dit, ça arrive qu'il y a des moments où on ne peut pas être là, mais il y a des chrétiens où oh ben, je viens une fois dans le mois et bon, ça me convient, ça me suffit. Là, c'est quelque chose qui est une coutume. Hein, dans Hébreux 10, versets 24 et 25, l'auteur dit « Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Alors il y a plusieurs choses ici que nous devons souligner dans ce passage. Il y a un devoir de veiller les uns sur les autres. Alors veiller, ça ne veut pas dire espionner. Veiller, c'est bah, quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien on va aller prendre soin avec la personne de lui demander ce qui ne va pas. Quand on observe quelque chose qui n'est pas selon, eh bien, ce que Dieu attend de nous, c'est ça aussi veiller. C'est de prendre garde. Nous avons un devoir également de nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et ici, le mot grec pour exciter, c'est le terme paroxysmos. Hein, c'est issu du mot paroxysme. Hein, paroxysme. Qui est ici traduit par paroxysmos, pardon, qui est ici traduit par exciter. Hein, il s'agit d'inciter, de provoquer au plus haut niveau, au plus haut degré. C'est ça l'idée de paroxysme. Nous devrions pouvoir, chacun d'entre nous, aller vers un frère, vers une sœur, et de l'encourager à toujours plus d'amour. Et l'encourager à toujours plus pratiquer les bonnes œuvres. Mais comment est-ce que nous, on peut accomplir cela si on néglige l'assemblée, si on n'est pas assidu à l'assemblée? Comment est-ce que les personnes vont pouvoir bénéficier de ce ministère quelque part, hein, de cette œuvre d'amour, d'encouragement, d'exhortation, si on ne cherche pas à s'exposer en étant présent à l'Église pour bénéficier de ces choses-là? Vous comprenez bien qu'il y a ici un mécanisme quelque part de donnant-donnant, mais sans forcément attendre quoi que ce soit en retour, parce que l'amour de Dieu, c'est ça aussi, c'est il nous aime malgré notre imperfection, il nous aime malgré nos péchés, nos défauts, nos manquements, il nous aime même si nous, notre amour envers lui n'est pas parfait, il continue de nous aimer. En toute logique, chaque membre d'église donc devrait vouloir donner la priorité au culte du Seigneur avec le peuple de Dieu. Nous sommes appelés à louer Dieu tous les jours. J'espère que pour vous, c'est pas juste, ah, c'est dimanche, je vais enfin pouvoir louer le Seigneur. Non, si vous êtes dans cette optique-là, vous avez tout faux, hein. Parce que nous sommes amenés à porter un culte à Dieu tous les jours, de manière individuelle, d'élever notre voix vers le Seigneur, de lui exprimer notre gratitude, de l'honorer, de le glorifier pour qui il est, de passer du temps dans sa parole, de passer du temps dans la prière. Ça, c'est rendre un culte à Dieu de manière individuelle. Mais nous sommes appelés en tant que chrétiens aussi à faire cela ensemble. Souvent, oui, on peut laisser certaines activités prendre le dessus, hein, sur, eh bien, notre participation à l'Église. Mais rappelez-vous d'une chose, Dieu honore celui qui l'honore. Dieu honore celui qui l'honore. Et si dans notre vie, nous cherchons à honorer Dieu, dans tous les aspects de notre vie, Dieu, il va honorer cela. Par contre, ce passage de 1 Samuel, chapitre 2, verset 30, dit aussi que ceux qui me méprisent seront méprisés. Comment donc vouloir bénéficier de l'œuvre de Dieu dans notre vie quand, lorsqu'en tant que chrétien, on néglige, je veux dire, l'un des instruments les plus grandioses qui existent, à savoir l'Église, pour que nous puissions bénéficier et grandir. Comment? Mais je loue le Seigneur parce que je vois dans cette assemblée cette assiduité, hein, je vois dans cette assemblée, hein, la majorité des croyants qui veulent se réunir, qui veulent faire les choses pour le Seigneur. Et je vous exhorte et je vous encourage à continuer dans ce sens-là, à persévérer dans la foi et dans l'œuvre du Seigneur, pour qu'ensemble, oui, nous puissions apporter à Dieu un culte qui lui soit agréable, tout en encourageant les uns et les autres à en faire de même. Donc oui, l'assiduité aux réunions. Puis oui, ensuite, deuxième chose, c'est apporter un culte à Dieu. Hein, c'est une responsabilité, mais c'est aussi un privilège, n'est-ce pas? On a déjà abordé cette question-là, hein, de la place du culte dans l'Église, lorsqu'on a abordé la question des missions, hein, de l'Église locale. Mais là, on parle de, voilà, pour chacun d'entre nous et nous en tant qu'Église. Parce que bien qu'il nous soit capable, comme j'ai dit, de louer le Seigneur en toute occasion ou en tout lieu, il y a quelque chose de bien plus fort, de bien plus bénéfique lorsque les chrétiens se réunissent dans ce même lieu pour ce même objectif. Quel est ce lien qui va nous unir? Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à être réunis? Si ce n'est notre amour pour le Seigneur. Et si nous aimons Dieu, en toute logique, nous sommes amenés à aimer les uns et les autres, comme le Seigneur nous l'a demandé. Dans Romains chapitre 15, versets 5 et 6, Paul nous dit que le Dieu de la persévérance, de la consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. une unité par l'amour avec l'objectif de glorifier le Seigneur. Certes, nous sommes tous conscients que la qualité du culte que nous pouvons apporter à l'Éternel, elle est loin d'être parfaite. Mais est-ce que vous avez déjà même considéré, voilà, le culte, les réunions de l'Église, comme un avant-goût de ce qui nous attend dans l'éternité? Alors, je ne dis pas que, voilà, dans l'éternité, hein, il y aura tous les problèmes qui existent parfois dans les églises, des conflits, des mésententes, etc., ou les imperfections parce que on connaît pas un passage, ou parce qu'on chante faux, ou quoi que ce soit comme ça. Non. Mais tout ce qu'il y a de bon, et de vrai, et de juste dans une église locale ici-bas, c'est un avant-goût de ce que sera l'éternité. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, hein, les versets 9 à 12, si vous me permettez de lire ce passage, nous lisons: après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alors oui, je dis un avant-goût. Un peu comme, voilà, on vous propose de goûter un échantillon. Hein, vous allez peut-être dans un restaurant et ils ont un nouveau produit qu'ils aimeraient vous vendre. Et pour faire connaître le produit, vous avez un serveur qui dit: vous voulez essayer notre nouveauté ici? Prenez donc un échantillon, goûtez-le. Ah oui, c'est bon. Ben, vous voyez, vous pouvez le prendre aujourd'hui. Et puis, un échantillon, un avant-goût. Hein, on appelle ça aussi une mise en bouche, hein, parce qu'une fois que c'est dans la bouche, on en veut plus. Et l'Église doit être cela pour nous, un avant-goût des choses à venir. De nous rappeler que, oui, malgré les difficultés qui existent autour de nous, malgré la noirceur de ce monde, nous avons l'Église locale qui est une lueur. Une lueur et un avant-goût de ce que sera l'éternité en Christ. Diversité de langues, de cultures. On a ça dans notre assemblée. Et le même Seigneur. L'objet du culte ici, c'est l'agneau, hein, dont notre salut dépend. Et malgré nos imperfections, cela devrait déjà nous encourager à nous réunir le plus souvent. Parce que la parole nous dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, et c'est Jésus qui parle. Je suis au milieu de vous. Quand on est seul à la maison, oui, on a la présence du Seigneur, on a l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Mais Christ a bien spécifié, là où deux ou trois, il y a un assemblage qui se fait, il y a une réunion qui se produit. En mon nom. Parce qu'on peut se réunir pour plein de choses différentes, hein, dans la vie. Mais Christ dit, je suis là, je suis présent. Et ne serait-ce que juste pour cela, nous devrions rechercher à profiter de tous ces moments ensemble autour du Seigneur, de sa parole. Ça ne veut pas dire que nous ne devrions rien faire, hein, concernant nos imperfections. Hein, l'évangile de Christ et le christianisme, c'est aussi de marcher de progrès en progrès, hein, de se rapprocher toujours plus de la perfection, de la sainteté de Dieu. Quand on a une église qui stagne, un chrétien qui ne progresse pas, ben, est-ce que nous sommes vraiment en train de poursuivre la volonté de Dieu? Non. Dieu nous demande de progresser. Hein, c'est ce que Paul rappelle aux Thessaloniciens par deux fois dans sa première et seconde épître, en chapitre 4 et verset 1er. Hein, il finit: nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et dans la deuxième épître également. En verset 3, il est heureux, hein, de ce que leur foi fait de grands progrès et que leur amour et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Donc il y a toujours cette progression, hein, qui est nécessaire. La question que nous devons nous poser quant au fait de venir à l'Église, de pouvoir apporter un culte à Dieu, est-ce que nous avons cette même démarche que le roi David, hein, le psalmiste, lorsque il dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Est-ce que c'est vraiment, sincèrement, pour nous, un sujet de joie que de dire « Aujourd'hui, c'est dimanche, on va aller à l'église et on va louer le Seigneur ». Mais si notre objectif en venant à l'église, c'est avant tout de recevoir, bon, alors là, on n'a rien compris. Lorsqu'on se réunit, c'est d'abord pour Dieu, pour son service, et ensuite même pour celui des autres croyants. Ça, c'est évident. Hein, relisez hein, les épîtres, c'est évident. Mais ce que les Écritures nous enseignent, c'est que chaque chrétien a donc reçu eh bien, d'immenses privilèges et par conséquent d'extraordinaires responsabilités au sein de l'Église locale, devant lesquelles nul ne devrait se décourager. En effet, le Seigneur Jésus-Christ, par l'œuvre du Saint-Esprit concernant notre salut, notre sanctification, il nous a rendus compétents, il nous a rendus capables. Et c'est les choses qu'on verra, Dieu voulant, au cours d'une autre prédication, hein, par rapport aux dons spirituels que Dieu il accorde pour que nous puissions accomplir ses responsabilités au sein d'une assemblée. Mais vous savez quoi? La première de ces choses, et c'est ce que Paul insiste dans sa première épître aux Corinthiens, la plus grande de ces choses, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour les uns envers les autres. Parce que si nous aimons nos frères et sœurs en Christ, nous voulons être dans leur présence aussi, n'est-ce pas? Imaginez un couple qui se dise « Je t'aime, mais on vit dans des chambres séparées ou dans des maisons séparées. Où on va juste se voir de temps en temps, hein, quelques minutes dans la semaine. Est-ce que ça paraît cohérent et logique? Ou même naturel? Non! Mais si nous avons cet amour réel pour le Seigneur et les uns pour les autres, nous voulons être en compagnie les uns et les autres. Alors oui, il y a plusieurs responsabilités et privilèges pour le chrétien. On a vu tout d'abord hein, de devoir participer de manière régulière, d'être assidu aux réunions d'église pour pouvoir apporter un culte à Dieu. Mais aussi au sein de l'église, c'est là où on va aussi pouvoir participer à ce que nous appelons les ordonnances dans l'église. Et on va juste un peu survoler cela, et Dieu voulant, donc la prochaine fois, nous regarderons un peu plus eh bien, aux responsabilités, aux autres responsabilités du chrétien dans l'Église. Mais c'est aussi un privilège, déjà, pour le chrétien de participer à ces ordonnances. Hein, on constate dans les Écritures deux ordonnances, et non pas des sacrements, hein, des ordonnances. Il y a le baptême et l'observation de ce que nous appelons le repas du Seigneur. Certains l'appellent la Sainte Cène. Dans les Écritures, hein, nous avons plusieurs passages qui établissent eh bien, ce devoir de commémoration du sacrifice de Christ. Hein, dans Luc chapitre 22, hein, verset 19, lorsque le Seigneur a pris du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna, en donna en disant, Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et je crois que ça, je crois que même en tant que chrétien, hein, si on ne vit pas en obéissance à la parole de Dieu et que on est comme ceux qui négligent les assemblées, qui abandonnent, c'est leur coutume. Là aussi, comment faire pour commémorer la mémoire du Seigneur? Comment faire pour participer au repas du Seigneur? Dans le catholicisme, et même dans l'orthodoxie orientale, et parfois même certaines églises protestantes vont utiliser le terme de sacrement pour désigner cette cérémonie hein, par laquelle la grâce de Dieu est transmise à un individu. Et dans de nombreuses églises évangéliques, on préfère voilà, le mot ordonnance. C'est quelque chose que Dieu nous demande de suivre, une cérémonie ordonnée par Dieu. Pourquoi? Parce que un sacrement, c'est souvent considéré comme un moyen d'obtenir la faveur ou la grâce de Dieu. Hein, lorsqu'un fidèle accomplit un certain rite religieux, il reçoit la bénédiction divine. Soit pour son salut, soit pour la sanctification. Mais une ordonnance, elle n'est pas considérée comme un moyen d'obtenir la grâce de Dieu, mais simplement comme une pratique que le Seigneur demande d'accomplir. En d'autres termes, un sacrement, à certains niveaux, implique une œuvre surnaturelle, de la part de Dieu. Une ordonnance, c'est simplement un acte d'obéissance. Et c'est pour ça que nous parlons du repas du Seigneur comme un acte d'obéissance, parce que Christ nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Mais aussi, nous regardons au baptême comme un acte d'obéissance, parce que voilà, c'est ce que nous sommes supposés faire à partir du moment où nous avons compris l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, qu'il est le seul à pouvoir effacer notre péché et à nous réconcilier avec Dieu. Notre foi en Jésus-Christ, elle commence là. Et ça nous amène à nous repentir de nos péchés. Ça nous amène à vouloir changer de vie par rapport à Dieu, par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres. Et une fois que cela se produit, Dieu attend à ce que nous soyons baptisés. Dans sa prédication, je reviens à Actes chapitre 2. Hein, Actes chapitre 2 à Jérusalem. Dans sa prédication, Pierre, au verset 38, il leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous. Ça, c'est la première chose à faire. Hein. Demander pardon à Dieu pour nos péchés et changer notre vie. Mais le baptême. On a déjà parlé de ce qu'est le baptême. Hein. Le baptême, c'est une illustration, de ce que Dieu accomplit dans la vie d'une personne qui place sa foi en Jésus-Christ et qui, devient morte par rapport au péché. Donc, il y a cette immersion, cette plongée, hein, parce que le mot baptême, c'est ça, hein, c'est une immersion, et une résurrection. Ça, c'est l'image du baptême. Mais avant tout, c'est un acte d'obéissance. C'est pas, ah, maintenant je décide de m'engager pour le Seigneur. Non, c'est pas un engagement pour le Seigneur. C'est, on veut manifester notre foi en Jésus-Christ, aux autres. C'est un témoignage, mais c'est aussi un acte d'obéissance. Mais voilà. Certains se sont égarés par rapport à ce qu'est le baptême, se sont égarés même par rapport à ce qu'est le repas du Seigneur, donnant une sorte de pouvoir surnaturel. Hein, vous avez probablement entendu, hein, dans l'Église catholique, par rapport à la transsubstantiation, où l'élément du pain, l'élément du fruit de la vigne, hein, du vin qui sert, ça devient physiquement, ça devient le corps du Christ. C'est pas ce que Christ enseigne. Il dit simplement, voilà, une image. Si vous relisez les évangiles, comment est-ce que Christ a enseigné? Dans la majorité des cas, Christ, il enseignait en utilisant des paraboles, des métaphores, des images. Quand il a parlé de ce pain qu'il a rompu, hein, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Il parle de son sacrifice. Il parle du sacrifice de son propre corps. Quand il parle du fruit de la vigne, du sang qui a coulé, il parle de son sacrifice, de sa mort. Il n'est pas en train de dire, ces éléments deviennent mon corps, et par ceci, vous allez recevoir quelque chose de bénéfique. Non, il ne dit pas ça. Il dit, simplement, faites ceci en mémoire de moi. Donc, la question, encore une fois, par rapport à tout ceci, pour nous, c'est que ces deux institutions, que ce soit le baptême par immersion, hein, ou même le repas du Seigneur, ces deux institutions ne sont généralement observées qu'au sein de l'Église locale. Hein, même si, on va dire dans certains cas, le baptême, hein, en rares occasions, est administré ailleurs. Hein, si vous regardez dans Actes chapitre 8, hein, lorsque le Philippe témoigne au ministre de la reine d'Éthiopie, Candace, et que ce ministre comprend, hein, le message de la parole de Dieu qu'il était en train de lire, et qui lui demande qu'est-ce qui maintenant m'empêche d'être baptisé. Hein, il croit au Seigneur, si tu crois au Seigneur Jésus, c'est bon, tu peux être baptisé, mais il trouve un point d'eau. Et il se fait baptiser. Ils ne sont pas dans un contexte d'église locale, n'est-ce pas? Hein? Et je ne suis pas en train de dire justement que le baptême, c'est que dans l'église locale. Mais dans la majorité des cas, ce que nous voyons, c'est que la commémoration du repas du Seigneur, le baptême, se retrouve au sein de l'église locale. Parce que souvent, hein, selon, hein, on va dire, l'interprétation que certains ont, hein, Et je crois que là, il y a un peu de liberté chrétienne à avoir. Pour certaines églises, à partir du moment où vous avez placé votre foi en Jésus-Christ et que vous êtes baptisé dans l'église, vous devenez automatiquement membre de l'église. Pour d'autres, il y a encore un processus où l'église va quand même voter et décider là-dessus. Okay? Donc, il y a une certaine liberté là-dessus. Mais ce que je veux montrer, c'est que ici, comment pouvoir participer même à ces choses-là si on néglige? Si on néglige l'assemblée. Donc, Dieu voulant, comme je l'ai dit, hein, nous verrons la prochaine fois ce que nous appelons hein, cette liberté personnelle du croyant, une liberté qui amène à des responsabilités. Un Christ nous a libérés, mais avec cette liberté, il attend aussi des choses de notre part. Et nous allons voir que, justement, tout croyant hein, en Jésus-Christ possède des responsabilités hein, vis-à-vis de la parole de Dieu. Et au sein de l'église locale. Donc, nous continuerons, hein, Dieu voulant, dans 2 semaines, cette étude sur eh bien, la place du membre de l'église au sein de l'église locale.